les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone depuis Montréal. Aujourd'hui, nous sommes au Canada à l'occasion du Salon du Livre qui renoue avec le public après une édition 2020 entravée par le Covid. Nous allons vous faire vivre cet événement avec des invités, des découvertes et des moments inattendus. Voici le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de rejoindre l'effervescence du Palais des Congrès où se déroule le 44e Salon du Livre de Montréal, nous serons en duplex de Genève avec l'auteur de BD Jules pour le nouvel album d'Is No Good, le célèbre vizir qui voulait devenir calife. Une sortie événement en librairie avec une bande d'auteurs et d'artistes qui signent les 5 histoires de cette BD. Direction ensuite les allées du Salon de Montréal avec le directeur de l'événement Olivier Goujon et 3 personnalités qui sont à l'honneur sur ce salon. Audrey Villelmy qui signe un conte étrange en pleine nature québécoise érotisée. La maire de Montréal, Valérie Plante, tout juste réélue, sera avec nous pour une bande dessinée sur sa vie de femme politique au Canada, parue chez XYZ. Et nous serons aussi avec Tristan Malavoie, qui vient d'obtenir le prix France-Québec pour son nouveau roman paru chez Boréal. Enfin, vous entendrez Yann Arthus-Bertrand avec un extrait de son entretien pour la version télé de la librairie francophone. La nouvelle édition est diffusée actuellement sur les chaîne de télévision francophone. Une émission dense et éclectique aujourd'hui depuis Montréal. Je vous présente rapidement les libraires qui sont avec nous cette semaine. Pour la Suisse, c'est Dominique Bressou de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bien. Pour la France, cap sur Orléans. Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez-vous la librairie Les Temps Modernes. En Belgique, c'est la douce et acide Déborah Damblon, acide parfois, qui est avec nous depuis Bruxelles. Libraire dans la librairie Le Public par Filigrane. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Elle enrage de ne pas être à Montréal avec nous, mais bon, c'est comme ça.
Ouh, viens me le dire.
Un jour peut-être. Et nous rejoindrons tout à l'heure Josiane Letourneau, justement au Salon du Livre de Montréal pour représenter le Canada, bien sûr. Mais avant, un détour par la Suisse à distance, à 5900 km de là, voici un grand vizir de la BD qui a pris la place d'un grand calife disparu.
Je veux devenir calife à la place du calife. Calife à la place du calife.
Sa magnificence, le calife.
Oh, mon bon Is No Good, tu te fais rare ces temps-ci.
Et bonjour Jules.
Bonjour.
Sur cette musique très Is No Goodienne, hein, on pourrait dire ça. C'est pas mal, ça.
Voilà, ça, c'est pas encore interdit par les talibans. Vous pouvez la passer à l'antenne.
Bon, vous faites en ce moment la promotion du nouvel album Is No Good en Suisse. Vous êtes donc avec nous depuis Lausanne, alors qu'on est à Montréal cette semaine. C'est aussi ça, la magie de la librairie francophone. Comment ça va de votre côté, Jules?
Ça va très bien. C'est toujours plaisant de voir que finalement, l'héritage de Goscinny rayonne au-delà même de la francophonie, mais toujours un petit peu partout. C'est quand même la magie qu'il y a avec cet ancêtre illustre dans les pas desquels on se glisse.
Ouais, c'est vrai. Alors, il fait un peu frette à Montréal, comme on dit au Québec. On va se réchauffer avec Is No Good et tous ses personnages pieds nus en babouche sous le soleil de Bagdad. Is No Good qui apparaît pour la première fois dans une histoire du petit Nicolas.
Oui, apparemment, c'est ça. C'était une histoire dans l'histoire, en fait. Je crois que c'était un mono de colonie de vacances du petit Nicolas en vacances qui racontait cette histoire d'un méchant vizir. Et ensuite, ça a pris forme de bande dessinée. Donc, c'est déjà, je dirais, quelque chose qui est relié à l'ensemble de l'œuvre de Goscinny. Et effectivement, ça, dans cette galaxie-là, humoristique, patrimoniale, qui a vraiment irrigué des générations entières, évidemment, il y a Astérix, il y a Lucky Luke, il y a le petit Nicolas, et il y a Is No Good. Et Is No Good a un rôle très particulier, je pense, par rapport à l'œuvre de Goscinny en général.
Alors, c'est vrai que quelques mois plus tard, René Goscinny reprend cette anecdote pour créer un personnage à part entière. Et donc, du coup, une nouvelle BD avec le dessinateur Jean Tabary. Et en 1968, Is No Good rejoint le magazine Pilote aux côtés d'Astérix et de Lucky Luke et il devient comme ça une star en fait.
C'est incroyable, en quelques années, parce que finalement, la vie d'Isnogoud, c'est la plus courte de tous ces personnages. Mais c'est vrai que tout le monde le connaît, encore aujourd'hui. Et puis, moi, je les ai relus, évidemment, tous les albums d'Isnogoud existants, pour replonger là-dedans. Je les avais plus lus depuis un moment. Dans l'enfance, évidemment, ça faisait partie des musts. Et puis, j'ai découvert finalement que c'était un univers complètement fou, complètement délirant, et très différent finalement du reste, parce que c'était l'endroit où, je dirais, le surmoi de Goscinny se déversait. Tous les calembours, tous les jeux de mots, tout cet espèce d'inconscient délirant et puis de ce lien à l'actualité qu'il n'avait pas dans ses autres séries, trouvait comme une espèce de d'exutoire. Donc il y a une espèce de folie. Le grain de folie de Goscinny, peut-être, c'est là plus que nulle part ailleurs qui s'est logé.
Oui, et à travers toute la francophonie, une fois encore, ici au Québec, Is No Good est très apprécié. Le dessin animé avait été un énorme succès d'ailleurs. En 1968, donc, il rejoint Pilote et puis il sera même chroniqueur dans un célèbre journal français, le Journal du Dimanche, en 1974, pour commenter l'actualité, figurez-vous. On imagine très bien un vizir ou un calife de Bagdad qui commenterait aujourd'hui l'actualité dans un journal d'information. Cela ferait un débat houleux, non, Jules ?
Oui, mais c'est le principe des lettres persanes que j'aime aussi beaucoup, moi, dans mon travail. C'est-à-dire de décaler, finalement, le regard qu'on peut avoir sur l'actualité. Moi, je suis dessinateur de presse, donc ça devrait me parler, de formation. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, bon, par exemple, dans Silex and the City, j'ai des hommes préhistoriques. C'est la façon d'aborder tous les thèmes un peu difficiles, les religions, les communautés, le terrorisme. De la même façon, Is No Good, ça permet vraiment de prendre à bras le corps un certain nombre de thèmes d'actu, mais effectivement, on est en babouche, on a des turbans, on est dans des palais, comme ça, de Bagdad la Magnifique au Moyen-Âge, mais finalement, quoi de mieux que tout ce recul pour être aiguisé face au monde qui nous entoure.
Alors Jules, Laurent Vassilian, Olivier Andrieux, Nicolas Tabary et Elric, c'est le club des cinq pour assurer la relève. Vous y êtes mis
à
cinq.
C'est plus une BD, c'est un kibbutz.
Et vous n'avez écrit qu'une seule histoire, vous, Jules.
Voilà, en fait, à vrai dire, je crois que j'ai ouvert le bal, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de travailler sur Is No Good, et évidemment, comme vous le savez, moi, ça fait une dizaine d'années désormais, et ça va vite, que j'ai repris officiellement Lucky Luke. Donc, côté calife à la place du calife, Goscinny à la place de Goscinny, je l'ai expérimenté avec un certain nombre d'albums de Lucky Luke que j'adore faire et que j'ai, complètement, je dirais, métabolisé maintenant avec le dessinateur HD. Et donc, je pouvais pas, à moi tout seul, avec mes petits bras, porter un Is No Good entier, d'autant que c'est assez, c'est extrêmement chargé. C'est-à-dire qu'il faut je sais pas combien de jeux de mots et de blagues par case, plus encore peut-être que les autres séries. Et donc j'ai accepté un premier chapitre d'ouverture. Et de toute façon, le principe des albums d'Is No Good, c'était des histoires courtes. Finalement, c'est un recueil de nouvelles en bande dessinée.
Et oui, c'est ça.
Donc j'ai ouvert le bal avec une histoire qui s'appelle Is No Good et le contrat de calife. parce que il faut toujours une blague dans les titres. Moi, ça me va à peu près, ça correspond à mon biorhythme. Ouais. Et puis, et les autres scénaristes ont continué en creusant chacun leur sillon à leur manière. Donc, c'est effectivement une espèce de patchwork, une espèce de carpette de lit sur laquelle le calife Haroun El-Poussa fait ses exercices le matin.
Bon, alors on va voir du côté de nos libraires. Effectivement, vous êtes amusé, Jules. Il y a beaucoup, beaucoup de second degré et puis des blagues dans les blagues. On va commencer avec la France et Sophie Todescato qui a lu ce nouvel album d'Is No Good. Sophie.
Oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il vieillissait pas, cet infâme, cet ignoble Is No Good, et que sans doute ce nouvel album allait satisfaire même les fans les plus sourcilleux, puisque il arrive à respecter la tradition tout en la réinventant à la fois dans le dessin, dans le scénario, avec ce qu'il faut d'allusions politiques, de clins d'œil et surtout de jeux de mots bien vaseux comme on les aime. Donc vraiment, rien n'a changé à Bagdad la somptueuse et c'est une réjouissante nouvelle.
Bien, la Belgique, Déborah Damblon, vous êtes fan d'Is No Good, je crois, depuis votre plus tendre enfance.
Eh ben, tout pile, Emmanuel. Mais ça faisait quand même un moment que j'en avais plus lu et je n'ai pas regretté de m'y être mise. Parce que mettre Is No Good au goût du jour, mais sans le trahir, vous l'avez fait et vous l'avez drôlement bien fait. La preuve, c'est qu'avec tous vos niveaux de lecture, ben vous avez fait rire l'adulte que je suis devenue, mais aussi la gamine en moi qui n'est jamais très loin. Et ça, ben c'est juste mais magique de nous permettre de rester un petit peu des enfants, mais sans nous infantiliser.
Voilà, Jules. Les commentaires de deux de nos libraires. Vous êtes en Suisse et on va rejoindre la Suisse dans un instant. Juste dire que vous vous amusez effectivement avec des allusions à notre époque, à la société française, à la politique aussi. Pour renverser le calife, Is No Good va embaucher un fameux conseiller qui a réussi un exploit contre-productif.
Et oui, parce qu'il a réussi à rendre fabuleusement impopulaire son patron, en l'occurrence l'émir Ibn Algo, qui est l'émir de Paris.
Ouais.
Alors il va... il va appliquer toutes les recettes de l'émir de Paris, c'est-à-dire il va créer un service de tapis volant en libre accès qui s'appelle le service Volib, qui très vite va péricliter et plus marcher du tout. Il va organiser la Gay Pride, en fait, avec tous les pauvres de Bagdad qui défilent avec des danses lascives, et ça crée des embouteillages géants sur des éléphants. Et à chaque fois, finalement, ça va pas marcher. Et c'est très marrant de sortir un album d'Isnogoud en pleine période électorale en France. On est une année présidentielle. Il y en a beaucoup qui veulent être calife à la place du calife. Mais c'est vrai, de quelqu'un d'absolument répugnant, contrefait, méchant et adepte de la théorie du complot, dont le nom commence par un Z, ça fait penser, beaucoup de regards se tournent vers un certain nombre de gens. Je pense même à une personne.
On a compris.
Et c'est un
compris.
Peu un hasard, parce qu'on ne savait pas que le fameux Z serait aussi présent, finalement.
Ouais. Alors c'est vrai que vous égratignez comme ça la vie parisienne, parce qu'il y a les Volib, vous le dites, des tapis volants en location partagée à courte durée. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les citoyens s'y habituent. Et une fois que c'est bien dans les habitudes, on sabote le dispositif.
Ah ouais, voilà, c'est exactement moi ce que j'ai vécu.
C'est très parisien,
en tant que citoyen
ça.
Parisien.
C'est très parisien.
Voilà. C'est une expérience vécue, j'espère que vous l'avez senti.
Oui, je l'ai senti, mais c'est très parisien, je trouve, pour Isnogoud, non?
Oui, en fait, c'est à vrai dire, il s'est toujours frotté à des cultures lointaines et exotiques. Ouais, et je pense qu'effectivement, la dimension Paris-plage sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, ça fonctionne.
Allez, pas très loin de vous, à Baudry, pas très loin de Lausanne, il y a Dominique Bressoux. Dominique.
Oui, pour moi, c'était un vrai bonheur de retrouver ce vilain vizir. Et mon personnage préféré, c'est Dilat Larat, en fait. Et du point de vue tant des dessins que des jeux de mots, ils n'ont pas pris une ride, comme le calife d'ailleurs. Mais alors, vu de la Suisse, même si on s'intéresse beaucoup à la politique de nos voisins, qui est un poil plus remuante que chez nous, il faut vraiment bien connaître les candidats à la prochaine élection française pour savourer certaines bulles.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est français, mais en même temps, vous êtes français, Jules. Vous vous régalez avec ce que vous avez sous la main.
J'ai essayé d'éviter un certain nombre de jeux de mots. Emmanuel Macron, les gilets jeans.
Si, vous l'avez fait.
Ces choses-là, voilà. C'est parti.
Si, vous l'avez fait.
Je l'ai fait pour mieux le repousser. C'était les premières tentatives.
En prologue, oui, il y a Emmanuel Macron, effectivement. Pour terminer, si vous pouviez choisir, Jules, vous aimeriez prendre la place de qui en ce moment?
De vous, Emmanuel. Et d'ailleurs, je prends contrôle de cette émission aujourd'hui même.
On va échanger, alors. On va échanger. Bon, merci beaucoup, Jules. Merci.
Merci à vous. Merci à tous.
Isnogoud, moi, calife, est paru chez Imav Édition. À bientôt, Jules. Bon séjour en Suisse.
À bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur de nos libraires. Première partie, on reste en Suisse avec Dominique Bressoux et un coup de gueule.
Oui, moi j'ai un coup de gueule sur la folie des polars maison. Parce que il semble qu'à présent, qu'on soit policier, procureur ou en rapport avec la justice, on se doit d'écrire des polars. Peut-être une forme de catharsis du quotidien. Alors oui, bien sûr, quand on sait à quel point finalement la Suisse est globalement très calme et peu fertile en meurtres éclaboussants, on se procure des frissons quand les polars se passent dans votre région, voire dans votre rue. Mais même si moi aussi j'adore les polars, de temps en temps, je me dis que tant qu'à lire et favoriser la littérature suisse et des auteurs de la région ou du pays, pourquoi ne pas se risquer plutôt dans certains romans ou nouvelles magnifiquement écrits?
Bah oui, c'est un beau conseil. Merci Dominique. En France, un coup de cœur, Sophie Todescato à Orléans.
Oui, un coup de cœur, Emmanuel, pour un livre de Mathieu Palin paru aux éditions L'Iconoclaste qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir. Et dont le point de départ, eh bien, c'est une histoire vraie, celle de Toumani Koulibaly, un petit braqueur multirécidiviste et en même temps espoir de l'athlétisme français. Et c'est justement ce « en même temps » qui rend ce personnage fascinant, capable le même jour de gagner le championnat de France et 3 heures plus tard d'aller faire un braquage qu'il mènera tout droit en prison, comme si sans cesse il choisissait de tout perdre dans la vie plutôt que de tout gagner sur la piste. C'est vraiment un personnage qu'on n'oublie pas et c'est un livre à la fois plein de vérité et de finesse qui d'ailleurs a été récompensé cette semaine par le prix Interallié.
Exactement, on salue effectivement le talent de Mathieu Palin, toutes nos félicitations pour ce prix Interallié. Ne t'arrête pas de courir à l'Iconoclaste. Merci Sophie, dans un instant on se retrouve en déambulation dans l'ambiance du Salon du Livre de Montréal avec nos invités. Nous allons vous faire découvrir un conte moderne québécois, brutal et légèrement érotique. Avant cela, voici le nouveau titre de l'artiste français Team Dup.
Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fane les roses, des pensées qu'on croit sûres, et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma poche, c'est la seule vérité, nos lèvres. lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, j'ai distillé le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Du jour, les couchers sur la mer, à ravir la mort, nous moquer bien des limbes et des longs puits sans fond, car les dieux et l'Olympe n'auront jamais raison. Ils nous envient l'effroi de connaître le temps, de n'avoir qu'une seule foi pour nous rendre vivants. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour.
C'était Teamed Up dans la librairie francophone avec d'alcool et de paysages.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous voici donc en plein Salon du Livre de Montréal pour cette édition 2021 transitoire. Pas d'émission en public en raison de la crise sanitaire, mais nous sommes quand même là, fidèles au poste. Bonjour Olivier Goujon.
Bonjour Emmanuel.
Alors là, on est sur la place centrale, l'Agora. Il y a énormément de public, beaucoup de scolaires aussi. L'année dernière, nous vous avions soutenu à distance. Cette année, c'est quand même mieux, Olivier. On est sur place, même sans le public habituel. Il y a quand même du monde pour découvrir cette édition, qui se déroule dans un nouveau lieu d'ailleurs.
Le Palais des Congrès de Montréal. Effectivement, c'est la première fois en 42 ans que le salon se tient dans un nouveau lieu. On est très fiers de pouvoir accueillir enfin des lecteurs, des lectrices. Vraiment, on est fiers et on est heureux surtout pour tous les artisans du livre.
Alors pour que les auditeurs puissent se faire une idée, Olivier, quels sont les aménagements, quels sont les changements que vous avez opérés pour vous adapter à la situation?
Alors, nous avons proposé un salon dans une formule un peu réduite, avec des kiosques allégés. On est revenu à l'essentiel. On s'est dit, en crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à nos valeurs profondes, à notre mission, qui est de promouvoir le livre et la lecture. Donc, on a proposé aux éditeurs une formule qui permettait, éventuellement, si la situation empirait, de pouvoir annuler. Et donc, sans que ça leur coûte trop cher, sans que ça coûte trop cher à tout le monde, les lecteurs sont là au rendez-vous et ils rencontrent leurs auteurs. Alors, ça a été vraiment difficile à faire accoucher, mais tout le monde ensemble a collaboré et on est très fiers de pouvoir accueillir enfin les lecteurs.
Alors, on a tous des masques, hein, c'est important, et les conditions sont respectées, hein, tout le protocole sanitaire est respecté. Le monde du livre a bien tenu, Olivier Goujon, au plus fort de la crise sanitaire. C'est la preuve, ça, de la force culturelle que représente cet outil. Le livre est toujours bel et bien vivant, toujours un produit culturel essentiel, quasiment pour toutes les familles, pour tous les citoyens.
Emmanuel, vous l'avez dit, le livre est un produit culturel et moi je le dis ouvertement, le livre c'est un objet qu'on acquiert. Il y a un côté commercial, ça permet de s'évader. Le livre est une promesse. Et vous savez, la lecture, c'est un acte intime qu'on fait chez soi, mais on a envie de le partager. Et un salon du livre, c'est un lieu magique pour justement partager la joie de lire.
Bon, merci Olivier. Merci Olivier Goujon. L'édition 2021 du Salon du Livre, c'est ici à Montréal, tout le week-end. Je vais me déplacer, Olivier. Je vais aller sur un stand de libraire. Alors, on prend tout le matériel. Hop. Et on va rejoindre une auteure réputée, appréciée par les lecteurs québécois. Alors voilà, on arrive sur la Maison des libraires, le stand de la Maison des libraires, l'Association des libraires du Québec, qui est là. Bonjour Audrey Villedmi.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, très heureuse d'être ici.
On est très heureux aussi d'être avec vous. Plie la rivière, c'est le titre de votre conte pour adultes, un petit livre paru chez Leméac qui va surprendre. On ne comprend pas tout de suite, on est dans une région du Québec avec un village, la pleine nature autour, des camelots, des trappeurs et des bêtes. Vous pouvez nous décrire cet endroit comme si on y était, Audrey?
En fait, on est à deux endroits en même temps. D'un côté, la forêt boréale sur le bord de l'hiver, on est en train de vraiment vivre l'automne avec les animaux, la trappe, les chasseurs. De l'autre, on est vraiment plutôt sur le bord de la mer, avec des chasseurs de baleines, en fait. Donc, la chasse occupe une place très importante dans ce conte. On a ces deux lieux-là.
Alors, c'est une écriture très spéciale, Audrey, très élaborée, aussi décousue parfois, poétique, rude surtout. J'ai trouvé très rêche à l'image de ces personnages qui ont tous des failles. On observe, d'ailleurs, avec crainte, leurs limites. Il y a une jeune fille qui se cherche, qui découvre son corps, un camelot, un peddler qui peut franchir la frontière de l'acceptable. C'est à la lisière, Audrey, cette histoire. Presque, parfois, un peu glauque aussi.
Oui, l'espace du conte permet cette exploration des limites, des frontières de l'acceptable. Et la rigueur du climat, la rigueur de la nature se traduit un peu dans les personnages aussi. Donc, les personnages sont une prolongation de l'environnement qu'ils habitent. Et comme l'environnement est très dur, ben, la réalité de ces personnages-là est assez dure aussi.
Il y a cette phrase récurrente, Audrey Villedmi, « Essai, plie la rivière ». Vous pouvez nous expliquer cette phrase?
En fait, elle fait partie d'une chanson que le personnage principal, la jeune fille qui s'appelle Noé, chante. Et entre la provocation et le rapport avec la nature, on finit par ne plus très bien savoir si ça s'applique à elle-même. Donc, elle devient un peu la rivière. Elle est dans un mode de séduction, un mode de provocation. Et donc, elle tente tout le monde en leur disant « Essaie, plie la rivière ».
Mais qu'est-ce que ça veut dire « plier la rivière » ?
C'est impossible de plier une rivière. Donc, c'est essentiellement « essaie de me plier, voir, ouais. Ça ne fonctionnera pas ouais. ».
Bon, avec nous, il y a une libraire que vous connaissez forcément parce que vous êtes une auditrice de l'émission, Audrey. Bonjour, Josiane Letourneau.
Bonjour, Emmanuel.
Comment allez-vous?
Mais je suis enchantée en ce moment.
Alors, vous êtes notre fidèle libraire ici pour représenter le Canada. Vous avez lu ce conte. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire, vous?
Eh bien, je suis encore une fois et comme chaque fois impressionnée par l'immense qualité de votre écriture, Audrey Villedmi. Elle est foisonnement et richesse. Vos mots sont des plongées organiques. Dans ce livre, comme dans plusieurs autres, j'y retrouve cette nature qui raconte toutes les histoires et surtout celles des femmes, toujours fidèles aux odeurs innombrables, à la lumière et à ces êtres qui vous appartiennent. Et pour celles et ceux qui ne vous ont pas encore lu et qui nous écoutent, ce serait un livre parfait pour commencer à vous découvrir.
Voilà, Audrey, encensé par la critique, comme on dit.
Et ça fait très plaisir à entendre, c'est certain.
Alors, en Belgique, il y a à distance Déborah Damblon. Déborah, quel est votre avis?
Eh bien, je trouve que vous avez écrit un conte, un vrai, une histoire à plusieurs étages de compréhension qui percole en nous petit à petit, un conte qui devrait presque se lire lentement et si possible à haute voix pour bien l'apprécier. Et je trouve qu'il fait partie de ces textes hors normes qui nous ramènent à l'essentiel de la littérature et peuvent nous faire vibrer en quelques phrases. Et ça c'est rare et c'est beau. Alors bravo à vous et puis aussi bravo à l'éditeur qui vous a soutenu dans cette démarche.
Voilà l'avis de nos libraires, Audrey.
C'est extrêmement bouleversant à entendre, ça fait toujours plaisir, surtout en temps de pandémie où on a travaillé très seul en vase clos et dans un environnement fermé, de voir le livre exister hors de mon atelier, c'est très, très touchant.
Il y a dans cette histoire une sorte de sensualité, une érotisation de la nature, sans règles, sans morale, la brutalité de la nature. C'est aussi une sexualité sans normes, Audrey Villelmy.
Oui, la sexualité est très libre, elle est explorée du côté un peu de l'animalité aussi, donc tout ce que l'humain porte en lui d'animal, ce qui lui reste en fait de son rapport à la nature. Donc ça crée des situations érotiques particulières qui me semblent intéressantes d'explorer.
Bon, on va rester dans la nature ou presque avec un extrait de la version télé de la librairie francophone qui reçoit en ce mois de novembre, entre autres, Yann Arthus-Bertrand. Il publie un livre pour la jeunesse afin de sauver la planète et il a participé à la dernière COP26 à Glasgow. Voici un extrait de cet entretien et on revient ici au Salon du Livre de Montréal. Bonjour Yann Arthus-Bertrand.
Bonjour.
La COP26 s'est déroulée la première quinzaine de novembre à Glasgow. Vous y étiez, certains dénoncent des décisions très insuffisantes. Il y a même le président de la conférence, Alok Sharma, qui a conclu cette conférence, cette COP26, les larmes aux yeux.
C'était très impressionnant.
En s'excusant oui. des résultats, ce qui veut tout dire, puisqu'à partir du moment où on s'excuse comme ça et qu'on dit que c'est en demi-teinte, c'est que c'est complètement raté.
Mais c'était beau de voir que quelqu'un à ce niveau-là est capable de pleurer en direct devant des millions de gens. Et moi, ça m'a beaucoup ému. Les COP ne servent à rien de plus, on sait bien, en tout cas pas pour résoudre les problèmes du carbone, mais elles servent à mettre en avant les problèmes. Malheureusement, cette COP, comme les autres, a été un échec. Mais par contre, j'ai fait la grande manifestation avec tous ces jeunes, oui, 100 000 jeunes,
oui, oui.
Et ça m'a donné une pêche, j'avais les larmes aux yeux, même d'en parler maintenant, toi, je suis ému de parler à tous ces jeunes qui avaient envie, qui ont crié tous ensemble, il se passait quelque chose.
Ils étaient dans la rue à Glasgow.
Et l'avenir, il est là.
On a
il
les images d'ailleurs.
Ouais. L'avenir, il est chez Greta, il est chez ces jeunes qui aujourd'hui ne nous pardonneront pas de laisser un monde de cette façon.
Alors la jeunesse, justement, le livre s'adresse à la jeunesse. Maintenant, agir rend heureux chez Saltimbanque, ça commence par la beauté du monde et on voit l'évolution évidemment. L'évolution, ce sont ces villes, ces aéroports, ces ports que nous voyons sur les images de votre livre. Et la démesure, elle est à l'image d'une photographie, Yann Arthus-Bertrand. C'est cette île à Dubaï, l'île artificielle en forme de palmier. Ça, c'est le symbole finalement de la démesure. C'est le symbole de la bêtise aussi pour vous.
Je bêtise. Non, je dirais pas ça. Puisqu'on peut le faire, on va le faire. On peut tout se permettre aujourd'hui. Imaginez que la tour de Dubaï, une grande partie de Dubaï, vous savez d'où vient le sable ? C'est pas du sable du désert.
Oui, oui.
C'est un sable qui vient d'Australie.
Il a été importé. Mais
on a les moyens de le faire. Pourquoi on prendrait pas du sable d'Australie? Parce que on va construire, on va faire mieux construire. Et c'est aussi le symbole de ces villes qui un jour reviendront au désert. Bien sûr, quand il y aura moins de pétrole, avec le changement climatique, toutes ces villes reviendront des ruines. C'est obligatoire, c'est écrit dans l'histoire.
Mais c'est ça qui est irresponsable, Yann Arthus-Bertrand, en fait. C'est ça, c'est quand on voit des îles palmiers, par exemple, à Dubaï. On voit la croissance avec ces villes comme ça, qui multiplient les petites maisons collées les unes aux autres. Enfin, ça devient du grand n'importe quoi. Et ce qu'on a vu à la COP26, pardonnez-moi, mais quand vous dites que ça ne sert à rien, c'est un vrai drame, parce qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à rien faire.
Nos politiques, ceux qui étaient à la COP26 et les autres, ceux qui nous dirigent, ne sont que le miroir de ce que nous sommes. Ils sont dirigés non pas par les électeurs, c'est les électeurs qui dirigent les hommes politiques, il faut le savoir ça. C'est le contraire d'une entreprise, c'est nous qui dirigeons les hommes politiques. Les hommes politiques ont été élus pour qu'on reste dans notre confort, parce que c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande de rester tel qu'on est. Et aujourd'hui, malheureusement, aucun homme politique n'a le courage de dire, voilà, on va vivre beaucoup moins bien, on va vivre mieux avec un peu moins. C'est trop dangereux pour la vision électorale.
L'homme politique n'a pas de courage, d'accord, mais est-ce
que
le citoyen a du courage au final? Parce que s'il ne vote pas pour l'écologie...
Je vais vous dire, quand il y a la marche pour le climat à Paris, on est 40 000 dans la rue.
Oui.
40 000.
Ça suffit pas.
Quand c'est la marche pour le pass sanitaire, 200 000.
Ouais.
Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue.
Ouais.
Quand on sera 2 millions dans la rue à marcher pour le climat...
Ouais. Peut-être que ça change.
C'est pas marcher pour le climat, c'est marcher pour notre vie. Mmh. On parle de ma vie, de la tienne, de nos enfants. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On va vers une catastrophe annoncée. Et c'est un livre pour dire à tous les jeunes... On peut arrêter la machine si on décide aujourd'hui de réduire notre consommation de 5% par an d'énergie fossile. On peut essayer de ne pas dépasser les 1,5 degrés à la fin 2000. Mais on est parti à 3 ou 4 degrés. 3 ou 4 degrés, excusez-moi, à la fin du siècle, ce que je dis est important. Je suis désolé de vous le dire.
Vas-y,
c'est un monde invivable pour l'homme.
Ouais.
On ne sera plus là.
Ouais. Yann, vous écrivez dans votre livre, c'est le déséquilibre aujourd'hui.
Je pense qu'on a tous... Moi, je suis photographe. Toi, t'es journaliste, il y a des gens qui sont libraires, d'autres chauffeurs de taxi. On a tous un rôle à jouer et on a tous le devoir de donner du sens à notre vie. Et ce qui se passe en ce moment nous permet de donner du sens à notre vie. Voilà, la vie, elle a aucun sens. C'est toi qui décides ce que tu vas faire de ta vie. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer nous permet formidablement de dire comment je peux aider, comment je peux essayer de sauver. C'est pas sauver la planète, c'est sauver la vie sur
oui,
Terre
dont
on parle.
Ouais.
Voilà. Et on a tous un rôle à jouer personnel.
Yann Arthus Bertrand dans la version télé de la librairie francophone diffusée ici au Canada sur la chaîne Ici Art TV de Radio-Canada. En Suisse, c'est sur RTS2. En Belgique, sur RTBF La 3. Et partout dans le monde, sur les 9 réseaux de TV5 Monde. Prochaine diffusion, ce lundi 29 sur Ici Art TV et RTS2. Et dimanche 5 décembre à midi sur TV5 France Suisse Belgique. Le combat pour l'écologie, c'est un sujet qui vous touche, qui vous mobilise aussi, Audrey Villemy.
C'est sûr, j'ai plusieurs enfants dans ma vie, puis je veux qu'ils soient le mieux possible. J'ai deux visions de ce sujet, en fait. D'un côté, la transformation nécessaire pour qu'on soit mieux, pour qu'on survive. De l'autre, la force de la nature qui, elle, n'est pas en jeu. Elle va se remettre s'il n'y a plus d'humains. Il a parfaitement raison, c'est notre survie qui est en jeu, pas la survie de la planète qui, elle, va se rééquilibrer sans nous ensuite.
Bon, merci beaucoup. En tout cas, la nature très présente dans vos livres, Audrey Villemy, je le rappelle. Merci pour cette intervention ici à la Maison des Libraires, quelque part, parce qu'on est sur le stand du Salon du Livre de Montréal de la Maison des Libraires. Plie la rivière est paru chez Le Méac. Bon Salon du Livre à Montréal, Audrey.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
Merci. La chronique des libraires. Tout de suite, deuxième partie, avec un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, pour Ada reviendra-t-elle, qui est le merveilleux dernier album de la non moins merveilleuse, talentueuse et originale Anne Herbauts. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser qu'elle est fabuleuse, puisqu'elle vient d'obtenir le Grand Prix triennal de la communauté française Wallonie-Bruxelles, oui, on est en Belgique, et c'est une artiste qui fait se répondre les mots et les images, qui nous permet de sortir des cases, et ça, ben ça n'a pas de prix.
Quand Ada reviendra-t-elle? Donc d'Anne Herbauts, magnifique Anne Herbauts, aux éditions Casterman. Merci beaucoup Déborah. Un coup de gueule, dites donc Josiane, ici en plein Salon du Livre de Montréal. Un coup de gueule? Sur
oui,
quoi?
Oui, justement, mais j'en profite pendant qu'on est à la Maison des Libraires pour être solidaire avec mes collègues et parler du fléau du vol à l'étalage. Parce que sur une page Facebook de Libraire, j'ai vu une collègue publier quelque chose et ça me met un peu en furie parce que chaque personne qui pose ce geste-là s'imagine peut-être que c'est un geste isolé, un événement qui n'aura pas de conséquences. Mais en fait, quand on fait des inventaires en librairie, on se rend compte que les pertes sont des milliers de dollars. Alors vraiment, il faut parler de ces choses-là. Il faut que les gens réalisent que ça a un impact. Puis c'est pas non plus comme si notre marchandise n'était pas gratuitement disponible dans quelque chose qu'on appelle une bibliothèque.
C'est vrai, c'est vrai.
Et voilà.
C'est vrai, c'est juste. Merci beaucoup, Josiane. Merci d'être venue ici avec nous au Salon du Livre de Montréal. Une édition un peu particulière, mais en tout cas, on l'a fait ensemble.
Je suis très, très contente d'avoir été avec vous ici. Merci à vous.
Merci, Josiane. On va partir dans les allées à la rencontre de Tristan Malavoie, prix France-Québec 2021. Et nous irons à deux pas d'ici, à la mairie de Montréal, avec la maire Valérie Plante, tout juste réélue, pour un entretien exclusif. Elle a publié une BD sur sa vie de femme politique et nous parlerons du rayonnement culturel de Montréal dans le monde. Avant cela, voici le dernier titre de la Québécoise Clopel Gag dans la librairie francophone. C'était la Québécoise Clopel Gag, multiprimée ici au Canada, avec Umami, extrait de son album Notre-Dame des Sept Douleurs, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La librairie francophone au Salon du Livre de Montréal cette semaine, séquence spéciale très grand format. On n'a pas encore les autorisations sanitaires ici pour faire une émission en public, mais on est dans le public et nous sommes avec le Prix France-Québec 2021. Bonjour Tristan Malavoie.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Tristan ? Félicitations d'abord.
Merci, ça va très très bien en fait.
Alors vous avez reçu ici même, vous vous souvenez, enfin en tout cas au Salon, c'était dans un autre endroit, il y a quelques années en tant qu'artiste pour une chanson interprétée en public. Vous êtes aussi auteur et éditeur et votre dernier roman, L'œil de Jupiter, vient donc d'obtenir le prestigieux Prix France-Québec. Vous succédez à Michel Jean et son magnifique Cocoum. Quelle est l'importance de ce prix pour vous ?
C'est un prix magnifique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il symbolise l'amitié, la complicité franco-québécoise. C'est un prix intéressant aussi parce qu'il traduit les impressions de lecture, les goûts de lecture de centaines de personnes, parce que le prix, il est décerné finalement par, je pense, ces 53 associations France-Québec à travers la France. Ce sont des centaines de personnes qui s'expriment à travers ce prix. Et en plus, bon, mon roman parle beaucoup des rapports, des liens historiques entre la France et puis l'Amérique, du 18e siècle notamment. Donc, je trouve que c'est un prix qui lui va bien, qui me fait très plaisir en tout cas.
Alors, c'est la saison des prix, hein, c'est vrai, en ce moment. On vous parlait du prix Interallié tout à l'heure avec notre libraire française Sophie Todescato. Jeudi, c'était le prix Goncourt des lycéens, décerné à Clara Dupont-Mono pour son roman S'adapter. Toutes nos félicitations donc à elle et aux éditions Stock. On parle un peu de votre livre, Tristan, parce que L'œil de Jupiter, c'est l'histoire d'une rencontre, une sacrée rencontre. Simon et Ruth qui font connaissance dans un resto-bar de la Nouvelle-Orléans. Piège à touristes, dites-vous. Ils commandent un sandwich à l'alligator frit. Vous avez essayé ça, vous ?
J'ai évidemment essayé ça.
C'est vrai ?
Pour pouvoir en parler. Plus j'avançais dans le projet d'écriture, plus je réalisais que finalement, le personnage principal de L'œil de Jupiter allait être la ville même de la Nouvelle-Orléans. Alors, je suis allé passer pas mal de temps là-bas, seul. D'habitude, on y va entre amis pour faire la fête et tout. Moi, j'ai fait un voyage assez studieux, ce qui est paradoxal, à la Nouvelle-Orléans. Et puis, j'ai essayé, évidemment, j'ai goûté toutes sortes de mets locaux, dont ce sandwich à l'alligator. Je pense que c'était une fois, mais qu'il n'y en aura pas deux.
Alors, pour le personnage aussi, ils vont se rencontrer là et ils vont errer dans la ville, comme ça, croiser d'une certaine façon quelques fantômes qui ont marqué l'histoire. Vous faites le portrait de ces personnages historiques.
Oui, bon, il y a le fantôme de Marie Laveau, par exemple, qui va traverser l'histoire. Il y a des personnages qui vont surgir ça et là au coin des rues. Et dans ce vieux carré, les siècles se superposent. Hein. On est en contact avec cette ville improbable qui a été érigée dans les bayous, dans la vase, et où ont débarqué des gens de partout, souvent des poquets de la vie, comme on dit au Québec, des gens qui arrivaient un peu abîmés, avec un passé oublié, avec la nécessité de se réinventer pour la suite. Et ça donne des magnifiques fantômes, ça.
Et de sacrés personnages, comme Benjamin Banneker, astronome, éditeur afro-américain, qui s'est fortement opposé à l'esclavage en 1791, mais qui avait aussi une passion pour les planètes du système solaire, dont Jupiter.
Oui, absolument. On sait qu'au 18e siècle, on commençait à mieux connaître Jupiter, qui est une planète connue depuis des siècles et des siècles déjà à l'époque. On sait déjà qu'il y a une tache rouge, en fait, qu'il y a une tache sur la planète. Il y a toutes sortes d'interprétations. Et de fait, Benjamin Banneker, magnifique figure noire que j'ai découvert durant mes recherches qui ont mené à l'écriture de ce livre, il s'intéressait à plein de choses, mais notamment au système solaire et à Jupiter. Alors, ça me permet d'installer cette planète dans la trame au passé, parce que donc on aura compris qu'il y a une trame au 18e siècle, mais aussi une trame au présent dans l'œil de Jupiter. Jupiter est présente, va coiffer l'histoire au 18e siècle, mais aussi dans la trame au présent, parce que le personnage de Ruth, que vous avez évoqué tout à l'heure, elle a travaillé pour la NASA, pour la mission Juno, qui est actuellement en cours, d'ailleurs, en observation autour de la géante gazeuse. Et puis, bon, ça fait que Jupiter est présente de part et d'autre. Je trouvais ça intéressant, moi, de mettre en relation cette planète sur laquelle on trouve ce qui est la plus grande tempête du système solaire. La tache rouge, en fait, c'est un gigantesque anticyclone. De la mettre en relation avec une ville, la Nouvelle-Orléans, qui est souvent balayée par des ouragans.
C'est ça. Voilà, plein de personnages, une galerie de personnages dans ce livre. Prix France-Québec 2021. Bravo, Tristan, on est ravis pour vous.
Merci infiniment.
L'œil de Jupiter est paru chez Boréal. Nous allons quitter ce palais des congrès, Tristan, et nous allons nous retrouver à quelques mètres de là pour un autre moment inattendu. Valérie Plante, maire de Montréal, nous attend à l'hôtel de ville tout proche. Le temps de nous déplacer, on écoute un extrait de votre nouveau mini-album sorti en septembre avec le Lac au Castor.
Si New York est toujours debout, Montréal s'étire au lit du fleuve. Et quand en juillet dans nos veines le sang bout, que les trottoirs échouent à mener quelque part. Dans un besoin d'altitude, je monte le mont Royal et je laisse le ciel glisser dans mes cheveux les doigts du vent, comme souvent tu le faisais avant. Et au lac, je lance mes remords, mes amours impossibles et mes théâtres. Et chaque fois, tu vois, je me demande si un jour reviendront les castors. Et au lac, je lance mes idées noires, mes prises de conscience venues trop tard.
On arrive en mairie de Montréal, Tristan Malavoie, avec de longs couloirs, des bâtiments anciens qui sont typiques, avec un lieu différent de la mairie là actuellement.
Oui, en fait, on est dans ce qui a été longtemps l'hôtel de ville de Montréal, qui est actuellement une mairie B parce que là, l'hôtel de ville principal est en rénovation.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Voilà, on arrive dans une grande salle. Bonjour Valérie Plante.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes maire de Montréal, fraîchement réélu. Yes. Alors voilà, mairesse.
Voilà, déjà dans le vif du sujet.
Alors que dit-on, que dit le protocole québécois, madame le maire, madame la maire, madame la mairesse?
Mais en fait, on peut choisir, mais nous, au Québec, en fait, toutes les femmes qui sont élues maires choisissent mairesse. Alors, on a vraiment décidé de féminiser le titre.
Très bien. Donc, félicitations, merci. Madame la mairesse, puisque vous êtes fraîchement réélue. Merci d'être au micro de la librairie francophone sur ICI Première, RTS La Première, RTBF La Première et sur France Inter du groupe Radio France. Vous êtes très engagée pour le rayonnement culturel de Montréal à travers le monde. Le prix France-Québec attribué au Montréalais Tristan Malavoie, c'est encore une opportunité, ça, pour valoriser la littérature au Québec.
Ben absolument. On a tellement d'auteurs incroyables. Bien sûr, Tristan Malavoie en est un. Bravo, j'ai envie de dire bravo, Tristan Malavoie. Puis c'est une... On souhaite que les auteurs québécois soient toujours plus lus à travers le monde. Puis comme on en a beaucoup à Montréal, Montréal métropole culturelle, ben c'est une pierre deux coups.
D'accord. Alors, Montréal a beaucoup d'atouts culturels, hein, effectivement. Absolument. Beaucoup d'artistes et d'écrivains francophones de grande qualité. Que peut faire le maire ou la mairesse pour les aider, alors?
Mais il y a bien sûr différentes initiatives, comme par exemple le Salon du livre qui se tient présentement à Montréal, auquel la ville participe. Moi, comme mairesse, j'y vais chaque année. Il y a également, quand on fait des missions à travers le monde, de pouvoir avoir toujours des artistes, des auteurs qui peuvent nous accompagner. Ça, je pense que c'est important également. Mission économique doit aussi rimer avec rayonnement culturel. Les deux sont intimement liés, justement.
Mais alors, vous priorisez la langue française, oui, ou vous êtes obligé de composer avec les anglophones, avec la langue anglaise?
Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas en opposition, parce que Montréal est la seule métropole francophone en Amérique du Nord. C'est un titre dont on est extrêmement fier. Et on soutient la culture francophone. Mais d'avoir d'autres espaces ou d'autres, des artistes qui parlent d'autres langues, qui s'expriment dans d'autres langues, pour nous, c'est positif. On est, si je peux dire, on est un peu au milieu entre les États-Unis, qui, bon, bien sûr, c'est anglophone, le reste du pays également, et l'Europe de l'autre côté. Donc, je trouve que c'est un plus.
Oui, c'est cosmopolite. Oui, c'est une ville cosmopolite.
Absolument. Très, très, très cosmopolite, oui.
Alors, Tristan Malavoie, vous êtes aussi éditeur pour la collection Quai numéro 5 de la maison XYZ, et vous avez publié une BD dessinée par Delphie Côté-Lacroix et scénarisée par Valérie Plante. Qui a eu l'idée?
C'est Valérie, au départ, qui a eu l'idée. Valérie qui, corrige-moi si je me trompe, Valérie qui, durant ses transports, ses déplacements, s'était mis à faire des croquis, des bonhommes allumettes. Je sais pas si on dit bonhommes allumettes en France, comprenez? Des bonhommes allumettes, puis exprimant des situations de la vie politique. Et ensuite, il y a une rencontre entre Valérie et Delphie Côté-Lacroix, illustratrice, un début de projet. Delphie Côté-Lacroix, avec qui moi, je venais de faire un autre livre. Et puis, quand la question s'est posée, est-ce qu'on en fait un vrai livre? Avec quel éditeur on pourrait travailler ça? Ben, j'ai été très touché de savoir qu'elles avaient pensé à moi. Et ça a été le début d'une complicité entre nous trois.
Alors, Valérie Plante, Simone Simoneau raconte les débuts en politique d'une femme de Montréal. Vous, qui avez été la première femme à accéder à la mairie de cette ville en 2017, vous avez réagi comme votre personnage qui dit à un moment « faut qu'on se dépêche si on veut changer le monde ».
Ben oui, absolument. Donc, se lancer en politique, déjà, c'est, j'ai envie de dire, un acte de foi. Il faut y croire, il faut avoir des convictions profondes, avoir un bon réseau aussi qui nous soutient. Je pense à la famille, les amis. Donc, oui, c'était important pour moi de faire le saut en politique, d'essayer, en tout cas, de voir est-ce que je peux changer le monde en faisant de la politique active. Pour moi, le milieu municipal est un milieu très propice à faire des changements, très terre à terre dans le quotidien des gens. Alors pour moi, c'était le milieu tout indiqué. Puis Simone, qui est un peu mon alter ego, qui montre un peu les dessous de ce que c'est de se lancer en politique quand on n'a pas nécessairement d'expérience, qu'on n'a pas évolué dans ce milieu-là, mais qu'on a le cœur à bonne place puis qu'on veut changer les choses.
Et il faut de l'argent aussi, parce que on vous dit ça. Il faut un budget 5 000 $ hein, dans la bande dessinée. On vous a sans doute demandé ça un moment. Et puis un réseau, une équipe. Vous avez fait le tour des amis, vous aussi?
Ah oui, absolument. Ça, c'est tout ça, c'est vrai là. Alors de vraiment prendre chaque dollar, on se dit bon, on le prend, et puis d'aller rencontrer, d'inviter nos amis, nos collègues à être bénévoles, parce qu'une campagne électorale, surtout au niveau municipal, ça se gagne avec le porte-à-porte. C'est comme ça que j'ai gagné la première fois. Alors, faut vraiment être très motivé.
Une battante comme vous, parce qu'il paraît que vous êtes une battante.
Oui. Je dis oui, c'est vrai. Ben, une battante heureuse, comme on disait. Hein. On dit la guerrière heureuse. Là.
Bon, vous comprenez alors, vous dites, pourquoi ce sont souvent les avocats ou les hommes d'affaires qui se lancent en politique en raison de l'argent et du réseau?
Oui, absolument. Puis, je pense que dans ce premier tome-là, on explore un peu les raisons systémiques qui font que certaines personnes sont plus... c'est plus facile, d'une certaine façon, de se lancer en politique. Donc, on peut parler du réseau, on peut parler des contacts, l'aspect financier, puis on se le cachera pas. Sous-jacent à ça, il y a le fait d'être une femme versus un homme, puis on pourrait aussi parler de la diversité. Qu'est-ce que c'est d'être une personne racisée versus non-racisée qui se lance en politique? Donc, il y a un peu ce questionnement-là de fond de dire... Qui va en politique et pourquoi c'est souvent le même type de personne? Ça change beaucoup. Et je pense que j'en suis la preuve et l'équipe qui m'entoure est beaucoup plus représentative de Montréal, mais ça demande beaucoup plus d'efforts pour certaines personnes.
Ce qui énerve Simone aussi, c'est quand on la présente comme une potentielle belle conseillère.
Oui. Hein,
toujours le physique.
Oui. C'est un peu pour démystifier, d'une part, mais également faire... au Québec, on dit rire jaune, c'est-à-dire d'illustrer une situation qui est fâchante, qui est dérangeante, mais de mettre un peu d'humour. Mais c'est, je veux dire, la population évolue. On n'est plus au temps où on dit aux femmes de retourner dans leur cuisine. Mais il peut rester un certain sexisme latent, qui est souvent plus insidieux parce qu'il est difficile à nommer. Et à changer également.
Valérie Plante, Madame la mairesse, vous souvenez-vous de votre première entrevue à Radio-Canada? Parce qu'il y a une scène, sur plusieurs planches d'ailleurs, avec ce personnage qui va à Radio-Canada pour la première fois.
Oui, absolument. Puis c'était ça aussi assez similaire, bien que, encore une fois, pour les besoins de la bande dessinée, on a amplifié la situation. Et de là, le travail incroyable qui a été fait avec Tristan, mon éditeur. Mais tous ces éléments-là, quand on se lance en politique, il y a différents... éléments qui sont des incontournables, mais une première entrevue, c'est sûr que ça marque. Parce que ça peut être intimidant quand ce n'est pas notre métier. Et dans l'important dans cette scène-là, c'est de dire, ben, je suis peut-être pas une experte, mais je sais au fond de moi ce que je veux dire et comment je veux défendre mes citoyens. Alors, de mettre les codes de côté, tant pis, moi je dis ce que je veux.
Vous aviez imaginé, vous aviez rêvé, Madame la mairesse, d'être justement maire de Montréal un jour?
Mairesse!
Oui, mairesse.
Je vais vous reprendre à chaque fois.
Mais vous avez raison. En même temps, je disais ça d'une façon générique,
oui,
maire de Montréal.
Raison. Maintenant, imaginez le jour où le générique sera mairesse.
C'est une bonne idée. C'est difficilement possible parce que le genre masculin existe quand même.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que maintenant, autour de moi, j'ai un comité exécutif où il y a plus de femmes et on pense qu'on va passer au féminin avant le masculin parce que ça représente la situation.
Alors, répondez à ma question, Madame la mairesse.
C'était quoi déjà? Je m'excuse.
Aviez-vous rêvé ou imaginé?
Non. Non, ça c'est de la, c'est comment dire, c'est, j'ai jamais rêvé à être mairesse, mais j'ai toujours su que je voulais travailler activement à changer la société. Alors Simone, elle, c'est le chemin qu'elle prend et c'est le chemin que j'ai pris. Il y avait quelque chose d'un peu poétique dans cette idée de Simone qui dit ben voilà, je lance un vœu à l'univers puis je le fais là.
Et être première ministre du Canada un jour?
Non.
Non.
Non. Non.
Pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi ça vous fait rire?
Non, parce que moi, je suis une personne qui rit. Hein.
Mais ça, c'est sûr. Mais c'est bien. Ah, mais non, faut pas.
Ce n'est pas de la nervosité. C'est tout à fait assumé.
C'est une grande qualité.
Moi, je trouve que oui, mais ça aussi, il faut changer ça dans la tête des gens souvent. Mais non, la question autour de moi me dirait, il faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que pour moi, le milieu municipal, j'aime j'ai besoin de faire des changements concrets. Et présentement, moi, à la ville de Montréal, comme mairesse, dans une journée, je peux parler des tuyaux à changer en dessous de la ville, parler de racisme systémique et des actions imposées, parler de féminicide et qu'est-ce qu'on doit faire, ensuite parler de culture, parler de transport. Et pour moi, ça, c'est extrêmement concret.
Bon, merci beaucoup, Madame la mairesse.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accueilli la librairie francophone à l'Hôtel de Ville de Montréal. Simone Simoneau, chronique d'une femme en politique, est parue chez Quai numéro 5 aux éditions XYZ. À bientôt, Valérie Plante.
Merci, au plaisir. Revenez nous voir.
Bien sûr. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec l'artiste guyanais Jayanaï. Voici un extrait de Tax.
Nos gars faut payer taxes, full taxes. Même pour moi, c'est pour que mon papa paye clair. Nos gars faut payer taxes. Bientôt pour nous libres, nous qui payons taxes. Toute la journée à taxes, full taxes. Nous gagnons l'argent, nous qui payons taxes. Nous dettes plein qui taxes, full taxes. Toute la journée, nous là qui payons taxes. Tout ça nous besoin, faut payer. Ok, faut payer. Loyer, faut payer. Nous gagnons pour payer. Aïe qui cavale, mais a toujours nous y est qu'à veiller. Pétrole à monter, y'a pas de nous fonds, mais nous qui payons. Donc, pas ouais, combien de monde qui l'a carré, dit qu'à débrouiller. Donc, à vie, non, l'aïe, contre tout l'homme, donc à débrouiller. Blood, blood, pas vie, maudit, t'as pas essayé. Nous sommes au cas écrit, tout seul, mais là, t'as l'aime, m'a payé. Nous gagnons pour payer taxes, full taxes. Même pour moi, c'est pour mon papa payer classe. Nous gagnons pour payer taxes, full taxes. Bientôt pour nous libres, nous gagnons payer taxes. Toute la journée à taxes, full taxes. Nous gagnons nous l'argent, nous gagnons payer taxes. Nous t'êtes plein qu'est taxes, full taxes. Toute la journée, nous la gagnons payer taxes. J'ai fait mon rail, mon poste, mon banquier. Mon système a décidé prendre mon baba. Quand j'en suis, viens les points de pied. À mes chances, fais celle même qui est café à l'étranger. Soit disant, y'a pas les gars, y'en a, y'a fait son système. Mais y'a les médias, moi, sont marqués, y'en font y'en système. Soit disant, y'a pas les gars, y'en a, y'a fait son système. Mais y'a les médias, moi, sont marqués, y'en font y'en système. Donc, y'a pour payer taxes, full taxes. Même pour moi, c'est pour que mon papa paye clair.
C'était Jayanaï, originaire de la Guyane. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Laurent Baudouin. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, ici à Montréal, avec Christophe Magère de France Inter et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, retour en studio, mais le voyage continue bien sûr. Un grand merci à tous les auditeurs français qui font bondir une nouvelle fois l'audience de la librairie francophone, plus que jamais numéro 1, très loin devant la concurrence. Vous avez fait de cette émission le programme consacré aux livres le plus suivi en France, radio et télé confondus. Merci à tous, au nom de toute l'équipe. Bon week-end et bonne semaine.